Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Les Antipodes.
Avant d'aller dormir. Des histoires horrifiques racontées par Yop et Indigo.
Installez-vous confortablement au fond de votre lit, remontez la couette jusqu'au menton et fermez les yeux.
J'ai vérifié chaque jour, à peu près toutes les heures pendant une semaine, pour voir si le chapitre suivant était disponible. J'ai pensé à en parler à mes amis, mais je n'étais pas complètement convaincu que ce n'était pas une farce, et j'ai refusé de leur donner satisfaction. J'avais essayé de revenir en arrière et d'écouter à nouveau l'autre chapitre, ayant réalisé, une fois que le choc initial s'était dissipé, que même le premier chapitre, bien que je sois gêné d'admettre maintenant qu'il m'avait ennuyé, était exactement comme les 30 premières années de ma vie avaient été. Mais lui aussi était également indisponible. Exactement une semaine après avoir terminé le dernier chapitre, le chapitre suivant est devenu disponible. J'étais à la fois terrifié et excité d'appuyer sur le bouton play.
Benjamin était rempli d'une excitation terrifiante alors qu'il se lançait dans le chapitre suivant du livre qui reflétait étrangement sa vie. Il avait écrit à ce sujet en ligne, se demandant si quelqu'un d'autre pouvait offrir une explication logique à ce qu'il avait vécu, mais jusqu'à présent, personne ne l'avait fait. Presque personne ne croyait que son histoire était autre chose qu'une pure fiction. Et ceux qui y croyaient, à son histoire, étaient eux-mêmes quelque peu fous. Il avait passé la semaine dernière à être obsédé par l'idée qu'un livre audio puisse raconter sa vie avec des détails aussi vifs. Et était encore plus obsédé par les marques de griffes laissées sur sa porte et cette dernière ligne du chapitre précédent à propos des horreurs auxquelles il ferait bientôt face.
Je ne suis pas sûr que j'utiliserais nécessairement le mot « obsédé ». Mais j'avais beaucoup réfléchi, à la fois aux implications de cet étrange enregistrement, en particulier à la partie sur les horreurs auxquelles j'allais bientôt faire face, et je pense que n'importe quel propriétaire serait énervé par le vandalisme sur sa porte d'entrée. D'autant plus que ce n'est pas quelque chose qu'un pot de peinture peut réparer. Mais les deux étaient-ils liés ? Cela n'était pas clair pour moi. Ils disent que la corrélation ne doit pas être confondue avec la causalité. Et cela semblait être ce qui se passait ici. Celui qui racontait cette histoire aurait-il pu vandaliser ma porte, ou était-ce simplement une coïncidence? De plus, en ce qui concerne la dernière ligne de ce dernier chapitre, cette histoire racontait-elle maintenant l'avenir, aussi bien que le présent? Était-ce un message inquiétant destiné à m'effrayer, ou pourrait-il, peut-être, être un avertissement? J'ai remarqué que je pouvais faire une pause et reprendre la vie de Benjamin quand j'en avais envie. Et l'histoire continuait comme si je ne l'avais pas du tout interrompue. Je pouvais par exemple mettre le livre audio en pause, prendre une douche et le reprendre, et le narrateur dirait quelque chose comme
« Benjamin est revenu de la douche et a repris le livre audio, curieux de découvrir s'il avait manqué quelque chose. »
Les boutons pour avancer ou revenir en arrière étaient grisés et la barre de progression en haut ne bougeait jamais. Donc tout ce que j'entendais ne pouvait être entendu qu'une seule fois et je n'avais aucune idée de combien de temps je pouvais aller avant la fin du chapitre. J'ai essayé d'en enregistrer une partie, me demandant si je pouvais la partager en ligne pour voir si quelqu'un reconnaissait la voix du narrateur. Mais chaque enregistrement que j'ai essayé s'est soldé par un son statique, étouffé. Je me suis retrouvé à écouter la vie de Benjamin à chaque occasion que je pouvais. L'écriture était si éloquente et les descriptions si vives qu'elles m'ont permis d'apprécier la beauté du monde dans lequel je vivais. Elle décrivait l'odeur du matin à laquelle je n'aurais normalement pas pensé une seule seconde, et la façon dont elle décrivait les rues de la ville qui fonctionnaient comme des veines alors qu'elle transportait le sang vers le cœur du centre-ville de Salt Lake. Il exprimait même avec justesse ma frustration lorsque j'étais bloqué dans les embouteillages, et mon anxiété alors que je préparais une présentation pour le travail. Le narrateur a résumé de manière experte mon appréciation croissante de la vie de Benjamin en une seule phrase.
Pour la première fois de sa vie, Benjamin s'est senti vraiment entendu.
Il ne fallut pas longtemps avant que le message inquiétant ne soit rien de plus qu'un mauvais souvenir dont je commençais à douter. Bien que la valeur de ce livre audio soit déjà claire, et que j'en sois déjà amoureux, une nouvelle expérience que je n'avais pas encore envisagée a rapidement doublé cette valeur en un instant.
Alors que Benjamin rentrait chez lui, profitant de la brise chaude qui traversait la fenêtre ouverte et s'émerveillant à nouveau des nuances de couleurs projetées dans le ciel par le soleil couchant, il remarqua quelque chose qui le fit s'arrêter.
Étrange. Je venais juste de penser à la beauté du coucher de soleil, mais rien ne m'avait fait réfléchir. Sauf peut-être cette ligne dans l'histoire.
Une chaussure, jetée sur le bord de la route, près de la piste de jogging qui longeait le canal, gisait sur la terre sèche.
J'ai regardé vers le chemin de jogging et j'ai commencé à ralentir mon allure. C'était un peu difficile à distinguer en voiture, mais il y avait vraiment quelque chose qui gisait dans la terre. Je me suis arrêté et je suis sorti de la voiture, enfonçant un écouteur dans mon oreille gauche pour pouvoir continuer l'histoire.
Il s'est approché avec appréhension de la basket jetée, ignorant jusqu'à ce moment que la basket appartenait à Colton Fisher, un garçon de 8 ans dont les parents étaient au téléphone avec la police à ce moment précis, décrivant désespérément leur fils disparu.
Je me suis dit, ça craint. J'ai regardé autour de moi à la recherche de signes indiquant qu'un enfant aurait une chaussure manquante. Je remarquais quelque chose à propos de la saleté cependant, les traces devant moi.
Alors qu'il cherchait les signes de mouvement, son regard a dérivé vers le bas, vers le canal.
J'ai alors remarqué une forme rouge dans l'eau courante. J'ai rampé le long du canal et je suis entré dans l'eau. Je m'étais demandé si le rouge faisait peut-être partie d'une chemise ou d'un chapeau. Mais en m'approchant, j'ai remarqué qu'elle se déplaçait avec l'eau comme de l'encre.
C'était du sang.
Je me suis dépêché plus vite en regardant l'eau devenir d'un rouge plus profond. J'ai trébuché sur un rocher et je suis tombé, m'éclaboussant le visage et couvrant la majeure partie de mon corps dans le ruissellement sale du canal. Je me relevais et sentis le rocher à mes pieds céder un peu. Ce n'était pas un rocher, c'était un pied. J'ai plongé mes mains dans l'eau froide et j'ai senti le corps de l'enfant.
Il a sorti le corps de Colton Fisher de l'eau et a remonté le côté rocheux du canal. Il n'avait jamais été officiellement formé pour pratiquer les gestes de premier secours. Mais il en avait suffisamment appris pour essayer, tout en criant à l'aide.
Je n'avais même pas réalisé que je criais jusqu'à ce que le narrateur dans mon oreille me le dise. Mais il avait, bien sûr, raison, comme toujours. J'ai comprimé la poitrine du garçon plusieurs fois, puis j'ai soufflé de l'air dans sa bouche, beuglant pour que quelqu'un m'aide. Quelques instants plus tard, j'ai entendu une voiture s'arrêter derrière moi et une portière claquer. Une voix de femme s'est approchée, elle était déjà au téléphone avec la police. J'ai demandé à la femme si elle connaissait la RCR, et elle a dit que oui, alors je lui ai dit de me remplacer et que je parlerai à la police. Elle l'a fait sans hésiter. Quelques minutes plus tard, une ambulance est arrivée. J'écoutais désespérément le narrateur dans mon oreille, espérant une direction ou au moins un signe indiquant si Colton était vivant ou non. Mais il semblait délibérément éviter les spoilers. Les ambulanciers ont immédiatement pris le relais et poursuivi la RCR. Ils ont sorti des outils et des instruments et ont commencé leur travail plus rapidement et plus efficacement que n'importe quelle autre équipe que j'avais jamais vue.
« J'ai un pouls !»
entendis-je l'un dire à l'autre et je me sentis étourdi de soulagement. Un policier s'est présenté et a posé à la femme et moi, dont j'ai appris que le nom était Karen Harvey, grâce au livre audio, une série de questions. J'ai répondu aux questions en omettant délibérément la partie sur mon propre narrateur personnel qui m'avait prévenu qu'il y avait un enfant dans le canal avec une blessure à la tête à quelques instants de la mort, et je me suis vite retrouvé en train de rentrer chez moi. J'ai pris une douche, je me suis changé, puis j'ai immédiatement repris l'écoute de la vie de Benjamin. J'avais dû la mettre en pause pendant que les policiers posaient leurs questions.
Se remettant de la montée d'adrénaline qui accompagnait le fait de tirer un enfant au bord de la mort, Benjamin reprit son livre audio avec un nouveau sens de l'émerveillement. S'il n'avait pas écouté à ce moment précis, il n'y avait aucun doute dans son esprit que Colton Fisher serait mort ce jour-là.
C'était vrai. Il n'y avait aucun moyen que ce gamin survive si je n'avais pas écouté ce livre audio en rentrant du travail. La police a déclaré qu'il semblait être tombé dans le canal et s'être cogné la tête contre un rocher. Peut-être après avoir été effrayé par un animal. Si j'étais arrivé ne serait-ce que 5 minutes plus tard, il se serait noyé. Ce n'est qu'à ce moment-là que je me suis finalement rappelé le passage, juste avant de remarquer le sang dans l'eau et la montée d'adrénaline. La chaussure était sur le sol, mais à proximité se trouvait une série de rainures dans la terre, comme les traces d'un gros animal. Il n'y aurait aucun moyen de savoir avec certitude, mais je parierais ma vie que les marques sur ma porte et les marques dans la saleté étaient de la même taille. Et puis il y avait ce sentiment déconcertant que j'avais ressenti juste avant de voir le sang, comme si j'étais observé. Et encore plus énervant, ce sentiment n'avait pas disparu. En fait, il ne s'était pas du tout dissipé depuis que j'avais quitté le canal.
Benjamin savait qu'il ne découvrirait probablement jamais la source des traces dans la terre, ni le lien, s'il y en avait un, entre elle et les marques de griffes sur sa porte. Pour l'instant, il était content de savoir que ses actions avaient sauvé la vie d'un enfant et que, à toutes fins utiles, c'était bien.
Encore une fois, le narrateur a mis le doigt sur un point important. Enfin presque. Cela a étrangement passé sous silence mon sentiment d'être observé. J'ai grimpé dans mon lit, puis je me suis levé et j'ai verrouillé la porte de ma chambre par mesure de sécurité.
Le sentiment de malaise ressenti par Benjamin a été éphémère avec son épuisement. Alors qu'il remontait dans son lit, un sentiment renouvelé de sécurité de la porte verrouillée, le recouvrant comme une couverture, il a commencé à s'assoupir.
J'étais sur le point de dormir quand un bruit provenant du couloir m'a tiré du bord du gouffre. Quel était ce son ? La maison se tassant probablement, ou tout simplement mon imagination. Je refermais les yeux et commençais à dériver, quand à nouveau j'entendis ce son, plus fort maintenant, plus proche. C'était un étrange tapotement capitonné. La première image qui m'est venue à l'esprit était celle de mon enfance, en particulier lorsque le chien de la famille marchait sur le parquet. J'ai pris une profonde inspiration et allumé la lampe de chevet. La nuit joue des tours au cerveau. Dans la journée, j'aurais rapidement ignoré le bruit de la maison et ça n'aurait sûrement pas été plus loin. J'ai réfléchi un instant, puis j'ai mis l'écouteur dans mon oreille. Peut-être que le narrateur pourrait me dire quel était ce son.
L'excitation dans la journée, semblait-il, s'était manifestée dans des images sauvages, tirées de son esprit, de grands monstres à l'affût dans l'obscurité. Bien sûr, se serait-il dit le matin, ce n'était vraiment rien de plus que la maison qui se tasse. Des bruits qu'il avait entendus des dizaines de fois auparavant et qu'il avait rapidement ignorés.
Je me suis allongé, laissant la lampe à côté de moi allumée, et j'ai fini par me rendormir. La dernière chose à laquelle je me souviens avoir pensé avant que le sommeil ne vienne enfin était le souvenir du chapitre précédent, résonnant dans ma tête.
L'horreur à laquelle Benjamin était sur le point de faire face ne faisait que commencer.
Et encore une fois, je ressentais ce sentiment de malaise que j'étais observé. Temps de trouver le sommeil. À bientôt.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.